La revue de presse avec David Abiker.
Et il va y avoir du sport ce matin, David.
À commencer par la une de l'équipe. Federer fait ses adieux à la reine. La reine sportive, évidemment. Et l'équipe trouve les mots « God save the king ». Évidemment, clin d'œil à Charles III et hommage appuyé à celui que le Parisien qualifie de légende du tennis. Federer, qui telle la reine d'Angleterre, s'offrira dans 15 jours à Londres un jubilé en guise de révérence, notre libération, qui raconte la transformation du tennisman qui démarra sa carrière en petit con des cours, immature, criard, irritable, prêt à faire valdinguer sa raquette et qui opéra sur lui-même une incroyable transformation psychologique.
Un peu comme vous.
D'une certaine façon. Il y a bien sûr les 20 victoires en Grand Chelem, les 103 tournois remportés, mais il y a la longévité et ce mental hors pair raconté par le journaliste Christophe Claret dans Libération. J'ai couvert ce sport pendant 30 ans et il est assez rare de voir des athlètes de haut niveau qui ne restent pas renfermés sur eux-mêmes. Roger est toujours en train de regarder les autres. Federer a beaucoup d'intelligence émotionnelle et d'empathie. Toujours affable selon Libération et accessible, et il a cette phrase Federer qui revenait souvent dans sa bouche, celle d'un des plus grands joueurs de tous les temps. Voilà ce que disait souvent Federer. C'est sympa d'être important, mais c'est important d'être sympa. Salut l'artiste.
Alors une maxime que le prince du Qatar applique à la lettre et à la une du point.
À 2 mois de la Coupe du Monde de football de Doha, que beaucoup veulent boycotter pour des raisons politiques et écologiques, opération charme de Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dans les pages de l'hebdo. Le point raconte les conditions de l'interview. Elles sont marrantes. Avant l'entretien officiel, rencontre off avec l'émir dans un café branché de Doha où l'on boit du café bio importé du Rwanda. Voyez-vous ça. La conversation débute en français. L'émir a fait quelques années d'études en Belgique. Puis elle se poursuit en anglais. Les journalistes montent ensuite dans une voiture pour visiter la ville. Surprise ! Qui est au volant ? Le prince du Qatar lui-même. J'aime bien conduire, ça me détend.
Alors que dit-il au point ?
L'entretien fait 12 pages et tout y passe. Les relations avec les frères musulmans, ces liens n'existent pas, dit l'émir. Le rôle d'intermédiaire avec les pays mis au banc des nations comme l'Iran et l'Afghanistan des talibans. Notre politique, c'est de rapprocher les partis qui ont des divergences. Les Européens ont-ils eu raison de sanctionner l'énergie russe ? Prudent, l'émir répond qu'il faut faire attention avec les sanctions, mais que la guerre doit cesser. Macron, critiqué pour parler à Poutine, il a raison d'avoir parlé à Poutine. Dit l'émir. La place des femmes dans la société qatari, l'émir le jure, c'est l'égalité. Nous avons des femmes pilotes de chasse. Elles représentent 63% des étudiants à l'université. Il oublie de dire que les femmes qataris ont un tuteur pour être autorisées à se marier, à voyager, étudier à l'étranger.
Un détail.
Avoir accès à la contraception. C'est quand même mieux que l'Afghanistan. Vient ensuite la question de l'écologie et de la Coupe du Monde de football en novembre prochain.
Aïe.
Le point s'inquiète de la climatisation énergivore des stades. Réponse. Nous avons utilisé des technologies de pointe. Les principaux stades ont obtenu la certification de durabilité 5 étoiles dans le cadre du Global Sustainability Assessment de l'organisation du golf pour la recherche et le développement. Pas sûr que ça fasse taire les critiques. Question du point sur les conditions de travail des ouvriers qui ont construit les stades et infrastructures de la Coupe du Monde au Qatar. Il y a les bonnes et les mauvaises critiques. L'émir accepte les bonnes, mais pas les mauvaises, celles qui veulent nuire. Interview à lire absolument sur la longueur, histoire de vérifier qu'il n'y a pas que l'Europe, ses critères et ses valeurs dans un monde où le Qatar veut faire sa place.
Foot toujours dans le Parisien, David, avec un dossier sur les amitiés toxiques des joueurs.
Pour un Paul Pogba capable de porter plainte contre ceux qui voulaient lui extorquer 13 millions d'euros, avec de forts soupçons sur le rôle que jouait son frère dans la petite bande de racketteurs, combien de joueurs sont victimes d'un entourage toxique ? Questions et réponses apportées ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France. Des centaines de joueurs, affirme un agent, Frédéric Guerra, qui a représenté des Benzema, des Ben Arfa. Il évoque même une mainmise mafieuse sur certains joueurs. Évidemment, l'agent ne livre aucun nom, mais cite l'exemple de joueurs mal conseillés dans leur carrière par des copains d'enfance, des entourages incompétents. Il donne le cas de ce joueur qui gagna des millions et que des amis bien intentionnés lui conseillèrent d'investir en Afrique. Aujourd'hui, dit-il, il n'est même plus propriétaire de sa maison. Le Parisien donne l'exemple d'un champion du monde qui a préféré décliner une offre à millions du PSG plutôt que de rester en région parisienne et avoir sur le dos les fameux amis d'enfance devenus des sangsues. Un ancien international a lui prêté une voiture à des copains qui s'en sont servis pour un hold-up. Il n'a pas été capable de couper les ponts avec eux. On se souvient de l'affaire Benzema Valbuena, de la sextape, Un expert analyse. Les joueurs de la nouvelle génération ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont oublié d'où ils venaient. Pire, qu'ils pourraient être des balances s'ils venaient à déposer plainte. Alors ils acceptent de traîner avec ces racailles et même de leur donner des responsabilités dans la gestion de leur carrière ou de leur patrimoine. À la description du phénomène, vous ajoutez l'omerta. Pas un nom de témoin, de victime ou de coupable dans Le Parisien. C'est la loi du silence et ça n'est pas prêt de changer.
Argent toujours avec un record plus financier que sportif.
10 millions de dollars pour un maillot de Michael Jordan, ce vêtement porté par la star des Chicago Bulls lors du match de finale de 1988 ou 18, là j'ai pas plus de mémoire, contre l'Utah Jazz, a été vendu aux enchères hier par Sotheby's un peu plus de 10 millions de dollars. Le précédent record était détenu par le maillot de Maradona, 9 millions en mai dernier. Terminons avec les manies du prince Charles. Ça n'a rien à voir avec le sport, mais plutôt avec les entourages toxiques. Depuis 3-4 jours, la presse française diffuse avec gourmandise un article du pas toujours recommandable New York Post, où il est question des manies du prince Charles. L'ex-prince de Galles semble avoir eu des exigences bien précises. Son pyjama doit être repassé chaque matin, reprend franceinfo.fr, tout comme ses lacets, avant qu'il n'enfile ses chaussures. Ce n'est pas tout. La lunette de ses WC doit être transportée lors de chacun de ses déplacements, tout comme ses meubles, son lit et des photos. On lui proposerait plusieurs œufs cuits à différentes températures le matin pour qu'il choisisse le bon. Il voyage avec 6 sortes de miel et son muesli. Quant au papier toilette, c'est la marque Kleenex Velvet, sinon rien. Le quotidien américain, qui s'est amusé à compiler les petites manies du nouveau monarque, nous apprend qu'il demande à ses valets de lui étaler chaque matin un pouce de dentifrice sur sa brosse à dents, soit 2,54 cm.
De très nombreux... Ça va pas forcément le rendre très sympathique, tout ce que vous êtes en train de
dire.
Bah
oui, mais le problème, c'est que de très nombreux sites d'infos français ont repris l'article du New York Post sans qu'aucun d'eux, à aucun moment, n'émette le moindre doute sur la réalité des exigences princières. Pas la moindre mise en cause des informations collectées par ces tabloïds auprès des entourages. Et puisqu'on parle d'entourage, il n'y a pas que les footballeurs qui doivent se méfier de leurs entourages. Ceux des princes sont parfois toxiques.
Voilà la revue de presse signée David Abiker. Et on me signale, Sébastien, me signale dans le casque, c'est la finale de 1998.
18, oui.
Voilà. Et je vends mon maillot d'ailleurs, si ça peut peut-être vous intéresser.
Avec la sueur, ça a plus de valeur.
Le maillot de la Sorbonne avec lequel j'étais champion de Paris en 89, mais je pense pas que j'attendrai les 10 millions d'euros ou de dollars pour ce maillot. Mais si ça vous intéresse, David, passez-moi un petit coup de fil ce week-end. Il est 8h39 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Cécile Cornudet et Éric Leboucher.